VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir, bienvenue à l'édition du 3 juin 2015, à la une ce soir.
Au Burundi, la présidence a annoncé le report des élections.
Visite à Niamey au Niger du nouveau président du Nigeria pour des entretiens avec son homologue Mahamadou Issoufou. Au centre des discussions, la lutte contre Boko Haram.
Le conflit libyen au centre des discussions. Aujourd'hui à Alger, l'ONU prône la formation d'un gouvernement d'union nationale.
En Chine, c'est toujours la course contre la montre pour sauver des centaines de passagers portés disparus après le naufrage d'un bateau de croisière.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Report des élections au Burundi. L'opposition burundaise se déclare ouverte à une reprise du dialogue avec le pouvoir. Nicolas Pinault.
Et oui, comme vient de me le confirmer le porte-parole de la présidence burundaise, Gervais Abayeho, il est certain que ces élections n'auront pas lieu vendredi. La commission électorale travaille actuellement à un calendrier selon les recommandations des chefs de l'État qui s'étaient réunis dimanche en Tanzanie. Et on se le souvient, ils avaient demandé un report des élections d'au moins jusqu'à mi-juillet, un report de 6 semaines. En tout cas, l'information vient de tomber, elle est confirmée. Il y aura donc pas d'élection le 5 juin en Burundi. Il faut également noter aujourd'hui qu'il y a eu cette déclaration de 17 organisations et partis politiques de l'opposition qui affirment qu'ils sont ouverts au dialogue. Le préalable de la non-candidature de Pierre Nkurunziza, un troisième mandat pour le moment à sauter, même si ces 17 partis réaffirment qu'il n'est pas question que l'actuel président burundais puisse se représenter. Et globalement, la tension est restée moindre aujourd'hui à Bujumbura, la capitale, puisque la police est quasiment parvenue à empêcher tout rassemblement au cœur des quartiers contestataires. Et enfin, dans la nuit dernière, un militant des FNL a été tué par une grenade jetée dans sa maison pendant la nuit dans le quartier de Buterere, selon des habitants qui ont accusé les Imbonerakure, les ligues de jeunesse du parti au pouvoir, d'avoir commis l'attaque.
Le nouveau président du Nigeria est à Niamey au Niger dans le cadre de sa première tournée à l'extérieur depuis son investiture. Mouamadou Bouhari et son homologue nigérien Issoufou Mamadou ont essentiellement discuté du renforcement de la coopération militaire pour venir à bout de Boko Haram.
It is our hope and aspiration that this official relationship.
Le président Buhari a dit que la République du Niger a toujours été un grand partenaire du Nigeria, tant pour les questions bilatérales que multilatérales. C'est notre espoir et notre aspiration que cette relation spéciale sera davantage renforcée durant mon mandat. Cette administration apportera un nouvel élan et un engagement nouveau aux efforts visant à éliminer la menace des insurgés de Boko Haram. Au prime abord, nous avons ordonné la relocalisation du commandement de l'opération jusqu'à ce que l'ennemi soit complètement défait. Le général Buhari s'est dit confiant qu'avec la coopération des pays voisins du Nigeria, Boko Haram sera vaincu.
C'était le président nigérian Mouamadou Bouhari. Nous l'entendrons tout à l'heure avec le président nigérien dans un reportage d'Abdoul Razak Idrissa à Niamey.
En Côte d'Ivoire, le procès de 9 officiers ivoiriens, dont 2 piliers de l'appareil sécuritaire de l'ex-président Laurent Gbagbo, accusé de nombreuses exactions, s'ouvre demain jeudi à Abidjan. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la justice militaire. Jacques Aristide.
Ce sont les commandants Jean-Noël Abéi et Anselme Sekayapo, dit Sekaseka, et 7 autres officiers qui doivent comparaître en cour demain, d'après le procureur militaire Ange Kessy. Le procès, ouvert au public, se tiendra au sein de l'état-major de l'armée à Abidjan Plateau pour des raisons de sécurité. 7 des officiers sont accusés de violation de consignes, tandis que le commandant Abéi est poursuivi pour désertion à l'étranger et complot. Ancien chef de l'escadron blindé d'Agban, le plus grand camp de gendarmerie du pays, Jean-Noël Abéi avait pris la fuite après la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. L'officier est considéré par ses détracteurs et des ONG internationales comme l'un des principaux responsables d'exactions sous le régime Gbagbo, notamment durant la crise. Quant au commandant Selma Sekayapo, il est accusé d'assassinat, meurtre, blanchiment d'argent aux fins d'achat d'armes, recrutement de mercenaires et entretien de milices. Les accusés risquent entre 3 ans et la prison à vie, selon le parquet militaire.
Le ministre français de la Défense a donné son feu vert à la déclassification de l'enquête interne de l'armée sur les accusations de viol d'enfants par des militaires français en Centrafrique. Jean-Yves Le Drian a répondu favorablement à la demande de la justice sur avis favorable de la commission consultative du secret de la Défense nationale, rapporte l'AFP. Informé par l'ONU en juillet 2014, le ministère avait lancé une enquête interne. Les témoignages de 6 enfants dénonçaient des faits commis fin 2013, début 2014, au début de l'opération française Sangaris en Centrafrique. Après la révélation de l'affaire par le quotidien britannique The Guardian, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire le 7 mai.
À l'ouverture de discussions ce mercredi à Alger sur le conflit libyen, le médiateur de l'ONU pour la Libye a exhorté les parties prenantes au conflit à faire des concessions pour parvenir à un accord sur un gouvernement d'union nationale, rapporte l'agence France-Presse. Bernardino Léon estime que ces nouvelles négociations constituent une dernière chance pour la paix et la reconstruction de la Libye. Ce pays est divisé entre deux gouvernements et parlements rivaux, l'un à Tripoli, sous la coupe des islamistes, et l'autre à Tobrouk, dans l'est du pays, reconnu par la communauté internationale. Les négociations d'Alger devraient aboutir à un quatrième projet d'accord, les trois premiers n'ayant pas convaincu les protagonistes.
Des peines allant jusqu'à 10 ans de prison et 500 000 d'euros d'amende ont été requises ce mercredi en France contre 6 Nigérians accusés d'avoir soumis à la prostitution des jeunes femmes en utilisant la violence et la sorcellerie. Le procureur du tribunal de Marseille, Eric Emmanuel Dis, a requis les peines les plus lourdes contre deux des proxénètes femmes, rapporte l'AFP. Confrontés à des écoutes téléphoniques, les 6 prévenus qui comparaissent pour proxénétisme aggravé ont tout nié aujourd'hui. L'enquête a débuté en 2012 quand la brigade de répression du banditisme a remarqué une recrudescence du nombre de prostituées nigérianes dans cette grande ville du sud de la France.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, en Chine, c'est toujours la course contre la montre pour trouver et sauver plus de 400 passagers portés disparus après le naufrage d'un bateau de croisière sur le fleuve Yangtze. Selon les médias d'État chinois, seulement 14 personnes ont pu être repêchées depuis l'accident de lundi soir. 26 décès ont été confirmés. Les secouristes travaillent d'arrache-pied pour localiser les passagers, des touristes âgés pour la plupart, qui pourraient être encore vivants à l'intérieur du navire. Mais leur mission est plutôt difficile à cause de fortes pluies et vents violents. L'agence Chine Nouvelle indique que 135 plongeurs, plus de 3000 soldats et 48 vaisseaux prennent part à l'opération.
L'opération militaire contre le groupe État islamique a tué plus de 10 000 combattants islamistes, a fait savoir un diplomate américain. Le secrétaire d'État adjoint Anthony Blinken a fait la déclaration lors d'une interview sur France Inter au lendemain de la conférence de Paris sur l'Irak et la Syrie. Les frappes aériennes de la coalition totalisent 14 en moyenne par jour et ont aidé les forces pro-gouvernementales à reconquérir certaines zones. Mais les djihadistes continuent de gagner du terrain. Hier soir, les avions de la coalition ont mené 22 raids en Irak et en Syrie.
Reprise des combats dans l'est de l'Ukraine entre les forces gouvernementales et les rebelles séparatistes soutenus par la Russie. Selon les séparatistes, 15 combattants et un nombre indéterminé de civils ont été tués à Mariinka, une ville stratégique non loin de Donetsk. Selon les termes de l'accord de cessez-le-feu conclu en février dernier, les deux camps devaient retirer leurs armements lourds de la ligne de front. Cependant, les observateurs internationaux ont noté régulièrement des violations de part et d'autre. Le conflit dans l'Est ukrainien, qui a éclaté en avril 2014, a déjà fait plus de 6400 morts.
La Grèce enquête d'une nouvelle assistance de ses créanciers alors que le gouvernement est à court d'argent et fait face à une série d'obligations, notamment des paiements dus au FMI. Près de 2 milliards de dollars doivent être versés dans les deux prochaines semaines, à commencer par une tranche de 336 millions vendredi. Le Premier ministre Alexis Tsipras était à Bruxelles aujourd'hui pour plaider sa cause. Athènes n'a pas reçu d'infusion de cash depuis août dernier du FMI, de ses voisins européens ou de la Banque centrale européenne.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama a promulgué la loi qui met fin à la collection massive de données téléphoniques par le gouvernement américain, une pratique qui visait, dit-on, à empêcher les attaques terroristes après les attentats de septembre 2001 aux États-Unis. Idrissa Seloudia.
Selon le président Obama, cette nouvelle loi protège mieux les libertés civiles et la vie privée, tout en assurant la sécurité nationale des États-Unis. Quelques heures plus tôt, mardi, le Sénat avait adopté à une majorité écrasante le projet qui avait été auparavant approuvé par la Chambre des représentants. Au terme de cette nouvelle loi, les compagnies de téléphone américaines et non plus la très secrète Agence de la sécurité nationale vont collecter et stocker ces métadonnées de citoyens américains, c'est-à-dire l'heure, la durée, le numéro appelé et non pas le contenu des appels eux-mêmes. Désormais, pour examiner ces données, les enquêteurs fédéraux auront besoin d'une décision d'un tribunal s'ils soupçonnent quelqu'un d'avoir contacté des terroristes connus ou présumés. Les détracteurs de l'ancienne loi la qualifiaient d'atteinte à la vie privée de millions d'Américains qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme.
Voilà pour le journal sur VOA Afrique, Le Monde. Aujourd'hui. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Bian.
Plus d'un millier de dirigeants économiques ou gouvernementaux sont attendus au Cap en Afrique du Sud à partir de ce mercredi pour le 25e Davos africain. C'est un record de participation qui témoigne de l'importance de l'Afrique dans les stratégies d'expansion de maintes entreprises. Au-delà des sujets habituels liés au développement et à la recherche de marchés, le forum doit aussi aborder jusqu'à vendredi des thèmes plus délicats comme les migrations, la lutte antiterroriste et l'économie informelle. Les dirigeants du continent vont se réunir du 2 au 7 novembre en sommet extraordinaire à Lomé pour adopter une charte en vue de lutter contre la piraterie maritime. Au moins 205 attaques de navires ont été enregistrées dans le golfe de Guinée de 2005 à mai 2015. La zone côtière s'étendant du Sénégal à l'Angola est devenue, selon les experts, la nouvelle plaque tournante de la piraterie en Afrique, prenant le relais du golfe d'Aldin du côté oriental de l'Afrique où le phénomène, un temps spectaculaire, a quasiment disparu devant le déploiement d'une armada militaire internationale. Et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, a octroyé un appui d'une valeur de 100 millions de francs CFA aux éleveurs centrafricains réfugiés au Cameroun. Les dons de la FAO sont constitués de vaccins, de seringues et aiguilles, de diluants et d'autres équipements pour assurer la vaccination gratuite de 150 000 bovins et 150 000 petits ruminants. Les dons comprennent aussi 4 000 sacs de tourteaux.
Merci beaucoup Jean-Roger Bion pour la Minute Éco. À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie.
Alors, on commence par la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande.
Oui, après un bon début de rencontre, le Sénégal a progressivement perdu le contrôle face à la Colombie, qui a égalisé et manqué de peu de l'emporter, score final un partout. Lors du dernier match, les Lionceaux de la Teranga doivent encore affronter le Qatar, qui a été sèchement battu par le Portugal 4-0. Les Aiglons du Mali ont perdu 2-0 face à la Serbie. La victoire inaugurale face au Mexique a eu beau gonfler le moral des troupes avant ce choc du groupe D, les hommes de Fanny Herediara devront se reprendre au prochain match. Autre rencontre, la victoire du Mexique 2-1 face à l'Uruguay. Et puis notez bien Nathalie, la nuit prochaine, le Nigeria qui affronte la Corée du Nord.
Et l'on ne cesse d'en parler encore du nouveau dans le scandale de corruption à la FIFA.
Et oui, Jérôme Balque, le secrétaire général de la FIFA, a affirmé aujourd'hui sur France Info qu'il n'avait aucun reproche à se faire, alors que le quotidien Le New York Times l'avait accusé d'avoir transféré 10 millions de dollars sur des comptes gérés par l'ex-vice-président de l'organisation, Jacques Warner. « Je n'ai aucune raison de dire que je ne devrais pas rester secrétaire général. Je n'ai aucune responsabilité, je n'ai aucun reproche à me faire. Je n'ai pas à me justifier d'être innocent », a déclaré le Français.
Et un peu de tennis, le tournoi de Roland-Garros.
Oui, sur la terre battue parisienne, Novak Djokovic a réussi l'impossible. Il devient le deuxième joueur à battre Rafael Nadal à Roland-Garros en quart de finale, au terme d'un match qu'il a maîtrisé avec une aisance stupéfiante en 3-7, 7-5, 6-3, 6-1.
Basketball nord-américain à la grande finale NBA, c'est demain soir, Nicolas.
Et oui, pour la première fois de son histoire, Cleveland peut inscrire son nom au palmarès NBA. Mais Golden State, qui a attendu 40 ans pour disputer une nouvelle finale, a une autre idée en tête. On se rappelle que lors de son retour à la maison en juillet dernier, LeBron James avait prévenu qu'il faudrait du temps pour que Cleveland joue à son meilleur niveau. Eh bien, c'est chose faite seulement un an après son retour.
Merci beaucoup, Nicolas Pinault, pour les sports. C'est donc Le Monde aujourd'hui avec Nathalie Barge et Chérubin Dorsil en votre compagnie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Niger. En effet, le nouveau président du Nigeria est arrivé à Niamey, au Niger, dans le cadre de sa première tournée à l'extérieur depuis son investiture. Mouamadou Bouhari a été accueilli par son homologue Mamadou Issoufou. Les deux chefs d'État ont essentiellement discuté du renforcement de la coopération militaire pour la lutte contre Boko Haram. Le point sur cette visite avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
La question sécuritaire a été le principal sujet au cœur de cette visite du général Buhari à Niamey. Les deux chefs d'État en ont discuté lors des deux tête-à-tête qu'ils ont eus, mais aussi au cours de la rencontre entre les deux délégations. Le Niger est un partenaire stratégique dans la lutte contre Boko Haram, a indiqué Mouhamadou Bouhari, avant de souligner être venu à Niamey pour renforcer ce partenariat, mais surtout dynamiser la coopération entre les deux pays.
It is our hope and aspiration that this official relationship
Le président Buhari a dit que la République du Niger a toujours été un grand partenaire du Nigeria, tant pour les questions bilatérales que multilatérales. C'est notre espoir et notre aspiration que cette relation spéciale sera davantage renforcée durant mon mandat. Le général Buhari s'est dit confiant qu'avec la coopération des pays voisins du Nigeria, Boko Haram sera vaincu.
Le président nigérien s'est dit honoré de cette marque d'estime du général Buhari, qui l'a rassuré de sa disponibilité à œuvrer pour la consolidation des acquis de la coopération qui lie les deux pays. Sur la question sécuritaire, Issoufou Mahamadou a appelé de vive voix à l'opérationnalisation de la force mixte multinationale de lutte contre la secte Boko Haram.
J'appelle de tous mes voeux l'opérationnalisation de la force mixte multinationale. Je sais, Monsieur le Président, après avoir écouté votre discours d'investiture, que votre grand pays s'engagera effectivement à la mise en place de cette force qui nous permettra d'éradiquer définitivement Boko Haram et ramener la quiétude sociale. Dans ce combat, je vous réitère l'engagement et la détermination des forces de défense et de sécurité du Niger à ne ménager aucun effort, aucun sacrifice. Du reste, l'accord de défense entre nos deux pays nous offre le cadre adéquat pour faciliter la collaboration entre nos forces de défense et de sécurité.
Accompagné d'une forte délégation composée en majorité de gouverneurs des États fédéraux situés à la frontière avec le Niger, le président Mouhamadou Bouhari passe la nuit à Niamey avant de continuer sur N'Djamena au Tchad. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondjouti.
Amnesty International demande à la Cour pénale internationale de lancer des poursuites contre des hauts gradés de l'armée nigériane impliqués dans la lutte contre Boko Haram. L'Organisation de défense des droits humains estime, dans un rapport publié aujourd'hui, avoir réuni assez de preuves de crimes de guerre commis par l'armée. Bagassi Koura adjoint à Dakar, Stephen Cockburn, directeur adjoint pour l'Afrique de l'Ouest et centrale à Amnesty International.
Ce que nous avons découvert, c'est des évidences claires et nettes des crimes de guerre massifs commis par les forces de sécurité nigériennes dans le combat contre Boko Haram. Les chiffres principaux qui sont accablants, nous avons trouvé qu'il y a au moins 7000 personnes qui sont mortes de faim, de soif, d'asphyxie, de maladies ou même de la torture dans les prisons et les lieux de détention. Plus que 1200 personnes qui ont été exécutées en toute illégalité par l'armée et leurs milices, y compris dans une journée, il y avait plus de 640 personnes, les hommes et les garçons tués après avoir fui une prison suite à une attaque de Boko Haram. il y avait plus de 20 000 personnes qui ont été arrêtées et détenues arbitrairement.
Est-ce que vous mettez en cause les hauts commandements de l'armée à Abuja ou peut-être à Lagos dans ces crimes, ou est-ce que ce sont des hommes de terrain seulement qui auraient commis ces actes-là?
Bon, nous avons nommé 9 groupes responsables. C'est vraiment les chefs de l'armée, c'est vraiment les personnes au plus haut niveau qui devaient faire l'objet des enquêtes sur leurs responsabilités, soit individuelles ou soit hiérarchiques. Donc, nous disons qu'il y a assez d'évidence pour faire les enquêtes sur eux, mais nous disons aussi qu'il faut faire les enquêtes sur une norme plus large des personnes.
Alors, et là, vous demandez au nouveau président de mener des enquêtes pour établir les responsabilités et peut-être prendre des sanctions.
Exactement. Nous avons une opportunité en or maintenant avec l'élection et l'inauguration du président Buhari. Il a déjà dit qu'il veut améliorer la situation des droits humains dans le pays. Donc maintenant, il faut faire preuve de cet engagement. Évidemment, le premier pas dans la résolution d'un problème, c'est vraiment d'admettre qu'il y a un problème. Maintenant, c'est l'opportunité d'effectuer un changement d'approche, reconnaître la gravité du problème et prendre des mesures nécessaires pour mettre fin à ces violations et s'assurer que des comptes soient rendus. Pour nous, ça veut dire qu'il faut ouvrir des enquêtes indépendantes et impartiales, y compris sur ceux que nous avons nommés dans le rapport, et mettre fin aux arrestations de masse, mettre fin à la torture, aux exécutions extrajudiciaires et aux conditions de détention inhumaines.
Stephen Cockburn d'Amnesty International était joint à Dakar.
Les fans du Ballon rond sont divisés sur la démission inattendue de Joseph Sepp Blatter, qui vient de décrocher son 5e mandat d'ailleurs à la tête de la FIFA. On écoute quelques réactions à travers le continent.
Il était temps pour lui de démissionner par rapport aux suspicions et un très gros problème de corruption qui frappait la FIFA. En tant que sportif, nous sommes vraiment ravis parce que la corruption ne fait que freiner l'élan et le progrès du football.
Je pense que la décision de M. Blatter est une décision responsable parce que vous savez les scandales qui a frappé la FIFA ces derniers temps avec ses affaires de corruption des pots de vin pour l'octroi de l'organisation de compétitions internationales a vraiment sali l'image de la FIFA quand on sait que le football c'est un vecteur de valeur universelle.
C'est un coup de tonnerre pour les Africains d'abord. J'étais surpris, je pouvais m'attendre à tout sauf à ça. Étant donné que c'est quelqu'un qui a été réélu, en qui on plaçait notre confiance étant qu'Africain, parce que Sepp a beaucoup fait pour l'Afrique. Et moi, je pense que si aujourd'hui un des pays africains a pu organiser la Coupe du Monde, c'est nécessairement grâce à lui.
Je suis impressionné de la démission de Sepp Blatter. Une icône comme lui du football mondial, c'est étonnant. Sa démission n'est pas bonne pour le football mondial.
Les problèmes qui se passaient autour de lui, des accusations de fraude et de corruption, tout ça là. Donc, je pense qu'il ne devait même pas être candidat.
Je ne suis pas surpris de la démission de Blatter parce que nul n'est éternel. Et je fais un appel alors au président de la CAF, ça doit lui servir d'exemple.
Et je ne suis pas trop surpris de la démission de Blatter, vu qu'il a trop duré à la tête de cette institution. Il faudrait aussi donner la chance aux jeunes de contribuer à leur manière au développement du football international.
Moi, je vois que c'est une bonne chose, parce que ça ne sert à rien qu'il est là, comme ça, avec les gens, alors qu'en dessous, là, on est en train de faire des coups, tout ça, là.
Mais pourtant, on l'a entendu seulement quelques heures après son élection qu'il n'envisage pas de démissionner. Qu'est-ce qui, selon vous, a changé en temps?
Bon, peut-être il est parti se voir vraiment compte tenu de la manière dont il a été élu et puis ce qui s'est passé sous ses yeux-là. Donc vraiment, il se sent mal à l'aise.
Moi, je suis un fervent supporter de Sepp Blatter. Pourquoi? Parce que Sepp Blatter vraiment a mis des conditions pour faire développer les fédérations africaines. Donc vraiment, c'est pourquoi je suis un peu choqué. Je pense que c'est une affaire européenne parce que l'Europe était contre.
J'avoue que je suis très surpris par cette nouvelle. À mon avis, je crois que c'est une démission forcée. Je ne crois pas qu'il puisse avoir démissionné de son plein gré de cette façon.
Je pensais, même avant, quand Platini même a décrié qu'il devait démissionner, je pensais qu'on lui avait déjà tendu une perche pour qu'il s'en aille.
quels seront les rapports que la CAF va entretenir avec le nouveau président. L'UEFA disait que non, véritablement l'Afrique, on ne peut pas compter sur elle, parce qu'avec les Africains, on ne parle pas d'éthique, mais c'est des rapports d'argent, et à partir de là, tout se gâte. Donc forcément, la CAF va souffrir.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. La FIFA pourra-t-elle redorer son blason après l'annonce choc du départ de Sepp Blatter de la présidence ? Son successeur pourra-t-il faire le grand nettoyage après les graves accusations de corruption ? Comment vous, en Afrique, réagissez à cette démission surprise de Blatter qui a eu le soutien inébranlable du continent ? Un mondial alternatif hors FIFA verra-t-il le jour, même après ces développements inattendus? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Au Maroc, un concert de Jennifer Lopez a suscité des appels à la démission de Mustapha Khalfi, ministre de la Communication. D'éminents membres du parti islamiste de la justice et du développement ont été choqués par la performance de la chanteuse au festival Mawazine, qui a été diffusé à la télévision nationale. Plus de 160 000 personnes ont assisté à ce concert. Pourquoi une telle levée de bouclier ? Idriss Fall a posé la question à Mustapha Tossa, journaliste marocain à Paris.
Dans le cadre du festival Mawazine, qui est un festival international auquel participent de nombreuses stars de la chanson mondiale, Jennifer Lopez avait un spectacle à Rabat. Les images de ce spectacle transmises par la télévision marocaine ont été jugées comme dérangeant, entre guillemets, la morale publique et la morale sociale du Maroc. Un certain nombre de personnes ont été choquées. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement avait demandé à ce qu'il y ait une enquête pour pourquoi de telles images jugées permissives, avec des positions et des postures lascives et provocantes. Et donc il y a eu tout un scandale dans l'opinion.
Pourquoi l'avoir invitée ? Parce que Jennifer Lopez, tout le monde sait qu'elle se produit comme ça.
La question est d'autant plus pertinente que le festival Mawazine avait déjà programmé dans d'autres éditions des chanteuses, entre guillemets, aussi chaudes, aussi hautes dans leur performance. On se rappelle aussi quand Shakira a été à Rabat, il y avait d'autres stars et du show américain qui étaient déjà venus à Mawazine, et ça n'avait pas provoqué un tel scandale, entre guillemets. Alors pourquoi cette fois-ci? Alors peut-être que ça intervient dans un contexte de débat extrêmement sensible au Maroc, où il y a un parti islamiste au gouvernement, mais qui n'arrive pas à trouver ses marques.
Et le Mawazine, je crois que c'est le roi qui a le dernier mot sur le choix de ceux qui viennent, non ?
Non, c'est pas le roi. Le roi n'y est pour rien dans le casting de ses stars. C'est une association culturelle dirigée certes par un proche du roi qui s'appelle Monsieur Majidi, mais le casting, il est international. Le casting, personne ne peut remettre ou l'a remis en cause le côté artistique de la chose. Toute la question est de savoir pourquoi des images de Jennifer Lopez passées à la télévision ont provoqué un tel tollé, un tel scandale aujourd'hui, alors que l'année dernière et l'année d'avant, des images aussi provocantes, aussi sensuelles, entre guillemets, sont passées presque inaperçues. Ce qu'il faut chercher, c'est l'explication dans le cadre politique, dans le cadre social, et ça a un rapport aussi à voir avec le fait qu'un parti islamiste, le PGD qui est au pouvoir et dont le chef est le premier ministre du gouvernement, arrive à une certaine séquence où il ne peut plus arrêter les contradictions et arrêter les antagonismes, et d'où ces prises de position très marquées au sein de son gouvernement.
Mustapha Tossa, journaliste marocain, joint à Paris.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Merci Lionel Gaïma qui a dirigé la production assistée de Micha Dubinsky à la technique. Présentation Nathalie Barge et chez Ruben Orsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.